tú eres muy malo, muy, muy malo. La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Y digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy.
En face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé.
No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro.
Ah.
Esa es la diferencia.
Yo creo que vocalizo muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% foot espagnol avec ce week-end la 15e journée de la Liga et vraiment une affiche XXL, l'un des plus gros matchs de la saison qui aura lieu à Montjuïc. On parle bien sûr de la rencontre entre le Barça et l'Atlético, voilà deux clubs qui ont un seul et même objectif, remporter la Liga cette saison qui caracole en tête même si il y a des formes un peu disparates entre les deux équipes en Liga. Un gros podcast vraiment à l'affiche aujourd'hui avec les deux Peñas, la Peña Rojiblanca Francesa avec Rodolphe, Timéo aussi d'Atleti Francia, et puis bien sûr aussi la Peña Blaugrana de Paris avec François et un nouveau Zinedine. Zinedine, je t'en prie, présente-toi un peu à nos auditeurs.
Alors bonsoir à tous, merci pour cette invitation, ça me fait plaisir de partager avec vous ce moment footballistique. Je m'appelle Zinedine et je suis membre de la Peña Blaugrana de Paris. Ça fait maintenant 4 ans que je suis membre de la Peña. Et voilà, c'est toujours un plaisir. C'était une très belle découverte qu'à Paris, il y avait d'autres passionnés du Barça avec qui je pouvais partager des bons moments depuis ces années maintenant avec eux. Et voilà, c'est toujours un plaisir de parler de foot.
Ben c'est parfait. Justement, tu as accompagné de François. François, comment ça va?
Ben, ça va très bien. Merci à vous encore pour l'invitation, comme toujours. Et très content de parler de ce très beau match et d'un bel événement qui arrive pour nos deux Peñas. Donc on pourra en parler tout à l'heure.
Exactement. Pour représenter la Peña, du coup, je l'ai dit, la Peña de l'Atlético Rojiblanca Francesa, on a Rodolphe avec nous. Rodolphe, comment ça va?
Ça va, merci. Bonsoir à tous.
Voilà, c'est parfait. Et puis ensuite, bien sûr, on a Timéo d'Atleti Francia. Timéo, comment ça va?
Ben, moi, ça va très bien. Écoute, on a réussi à se caler quelque chose pour parler du Cholo il y a quelques jours. Là, je suis de nouveau de retour, toujours avec le même plaisir.
Eh, c'est ça. C'est vrai qu'on avait parlé du Cholo. Ça revient souvent d'ailleurs entre nous sur les podcasts. C'est vraiment le fil conducteur. Mais bon, il est tellement extraordinaire. On en reparlera sans doute un peu. Et puis bien sûr, un podcast Ligue Actu. Vous connaissez la musique. C'est comme le Cholo à l'Atlético de Madrid. Ruben, le jefe, comment ça va?
Ça va très bien. Il n'y a pas la même longévité encore, mais écoute, toujours là, donc ça va nickel.
Voilà. Mais en plus, vous êtes tous réunis un peu à l'occasion de ce podcast et vous allez vivre un bel événement. Timéo, je vais te laisser nous présenter parce que je crois qu'avec la Liga et votre page et bien sûr les Peñas, vous avez quelque chose d'organisé à Paris.
Mais effectivement, comme François en parlait un petit peu avant, et puis je pourrais aussi lui laisser le soin, même à Rodolphe, de rajouter un petit peu, mais on organise donc un événement dans un bar à Paris, le Corcoran's Bar des grands boulevards, si des gens parisiens nous écoutent, où on va réunir donc la communauté à la fois des supporters du Barça et à la fois de l'Atlético pour voir ce match tous ensemble. Et puis on attend une petite centaine de personnes, donc c'est vraiment quelque chose qui est super, super cool. Il y a un vrai engouement autour de ça. Et puis il y a la Liga qui nous soutient, il y a aussi Sorare, l'application qui sera présente, donc c'est vraiment super cool de pouvoir réunir les deux communautés et puis aussi dans une ambiance chaleureuse mettre à la fois la rivalité uniquement sportive mais montrer que les deux communautés peuvent aussi partager des moments ensemble.
Ouais, bien sûr, en plus ça a beaucoup dealé hein, ces derniers temps entre les deux clubs. Voilà, Griezmann, on pense à Luis Suarez, bien sûr maintenant à João Félix. On aura un petit encas sur lui dans le podcast. On remercie bien évidemment aussi Bastien, tout le département français de la Liga pour le travail qu'ils accomplissent. Et franchement, c'est top de pouvoir organiser ce genre de petits événements et de se rapprocher au cœur du football espagnol. François, pour la Peña de la Peña Blaugrana, est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à cet événement?
Bah ouais, exactement dans la lignée de ce que disait Timéo. On n'a eu que des retours très positifs de cet événement, de pouvoir réunir nos deux communautés. Donc je pense que tout le monde a hâte de se retrouver et de partager ce bon moment ensemble.
Parfait, parfait. Puis avant de passer la parole à Zinedine pour la première question qui concernera le Barça, Rodolphe, pareil, est-ce que tu as un petit mot à nous dire en ce qui concerne ta Peña?
Bah oui, enfin même par rapport au match, à l'organisation, merci à Bastien, à François, à Tim et voilà, c'est cool, et au Corcorens, et franchement, en plus pour un dimanche soir, monter en si peu de temps, je sais pas s'il y a déjà eu un truc comme ça, alors que finalement c'est peut-être entre guillemets pas si compliqué que ça, mais c'est génial, c'est un beau moment de partage, j'espère, ça va être un cool match, j'espère, ça va être sympa.
Ben voilà, c'est parfait. Ben pour lancer justement ce match, on va parler ben, de l'équipe qui reçoit le Barça qui reste sur un match nul d'ailleurs sur la pelouse du Rayo à Vallecas en Liga, mais un Barça qui est de retour dans le top 16 européen, voilà, qualifié pour les huitièmes de finale 2 ans après. Est-ce que pour toi, Zinedine, c'est une qualification un peu libératrice et qui permettra peut-être de retrouver ben, l'équipe de Xavi sous son meilleur visage?
Bah, on espère, parce que oui, il faut se dire que depuis le début de cette saison, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué chez nous, avec les blessures, avec tout ce qui se passe, on va dire, hors football également. Mais bon, ouais, on espère que psychologiquement, ça va débloquer quelque chose, que ça va plus, on va dire, motiver les joueurs à se donner plus, voilà. À retrouver un peu plus. En plus, là, on a des retours de De Jong, de Pedri sur le terrain qui fait vraiment. Les deux, ils font vraiment beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe. Et voilà, avec le retour de ces joueurs, on espère que, voilà, que ça va vraiment changer les choses pour le reste de la saison et bien sûr pour ces huitièmes de finale en Ligue des Champions.
Ouais, tout à fait. Ben, on avait un peu l'impression, pourquoi pas, de voir un Barça qui était complexé. Voilà, on pense un peu à une équipe qui avait cet objectif-là en tête. Et c'est vrai, d'où le sens de la question, un peu une qualification libératrice de pouvoir enfin voir ce Barça être libéré de tout ça. Toi, François, justement, Zinedine nous parlait aussi très justement des retours ben, de joueurs fondamentaux au milieu de terrain. Comment est-ce que tu vois cette qualification et même comment est-ce que tu vois aussi un peu ces dernières semaines de compétition? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une amélioration?
Bah ouais, dans la lignée de ce que disait Zinedine, on avait vraiment besoin je pense, de cette victoire contre Porto en Ligue des Champions et de cette qualification parce que bon, on voit depuis le début de saison que les joueurs, le club, ils sont assez crispés, assez focalisés sur cet objectif qui était de passer les huitièmes de finale, enfin de passer les poules et d'arriver en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on sent qu'il y a pas mal de matchs de Liga aussi qui ont pu passer à la trappe peut-être. Enfin, les matchs soit avant, soit après les matchs de Ligue des Champions. Et ouais, donc on espère vraiment que l'équipe pourra enchaîner. Là, il y a quand même deux très gros matchs qui arrivent, que ce soit contre l'Atlético et après on recevra encore le Girona. Donc ça va être deux gros matchs qui vont suivre. Et voilà, on voit contre Porto, c'était bien parce qu'il y avait la victoire, mais on voit que ça vient souvent d'exploits individuels quand même. Cancelo qui a fait un match incroyable contre Porto. Donc voilà, on espère pour les prochains matchs que ça pourra quand même les mettre en confiance, mais collectivement, on attend aussi un petit peu plus de l'équipe lors de ces prochains matchs.
Ouais, ben justement pour enchaîner par rapport à ce que vous disiez sur l'Atlético de Madrid, cette fois-ci, dit qu'on l'a dit qu'il fera le déplacement. On va revenir sur un point où on a un peu parlé justement à l'intro de ce podcast, c'est évidemment le Cholo, qui est, on va dire, était un peu au centre des critiques. Après, on se souvient l'élimination l'année dernière en Ligue des Champions dès les phases de poule. On en a un peu parlé avec toi, Timéo, et je vais d'abord poser la question du coup à Rodolphe dans un premier temps. Mardi, justement, il y a eu cette qualification pour les huitièmes de finale. On voit un Atlético de Madrid qui est quand même assez métamorphosé par rapport à l'année dernière. Toi, Rodolphe, comment t'expliques un peu cette évolution qu'on a pu voir en l'espace de ces 12 mois?
Bah, c'est vrai que pour la première fois, réellement depuis que Simeone est arrivé, il y a un vrai élan offensif. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment l'année où il marque le plus de buts. Bon, en général, c'était les années où ils étaient champions d'Espagne. Mais là, il surpasse ça pour l'instant après quelques matchs. Voilà, au moins, on peut plus dire que Simeone ne fait que défendre. Là, il fait la même chose qu'avant, mais en gagnant, en marquant des buts, vraiment, voilà. Donc, du coup, il y a une vraie évolution. En 2023, c'est une des équipes d'Europe qui marque le plus de buts. Ça se vérifie encore là en début de saison. Non, ils sont très très forts maintenant. Après, le foot, c'est fait aussi de titres, hein. Si on fait des choses comme ça et qu'il n'y a pas de titres, on s'en souvient moins derrière. Donc, à voir, mais ils arrivent bien lancés. C'est plutôt intéressant là d'arriver comme ça, avec le même nombre de points que le Barça en plus. Un match en moins, mais quand même. Il y a de l'enjeu.
Ouais, c'est ça, bah le match en moins en plus qui se jouera maintenant dans un peu moins d'un mois contre Séville, effectivement, tu l'as dit, mais dans la mesure où l'Atlético de Madrid gagnerait cette rencontre, il y aurait la possibilité, en tout cas dans le classement actuel, de revenir à un point du Real Madrid et du Girona qui sont en tête. Donc effectivement, il y a l'enjeu sur ce match, tu le disais. Timo, je reviens justement avec toi sur le point du Cholo. Toi, voilà, quels sont les éléments que tu veux mettre en avant pour expliquer le fait qu'on ait vu une équipe de l'Atlético de Madrid qui l'année dernière, voilà, avait du mal en Europe et cette année a réussi à assurer sa qualification et même de manière générale à se métamorphoser en l'espace, voilà, d'une petite année, on va dire.
Ben, j'ai envie de dire que quand les résultats sont positifs, forcément, après en Europe, c'est aussi positif. Donc, je pense que ça, c'est juste dans la lignée de ce qu'on voit depuis l'après-Coupe du Monde. Mais après, c'est sûr que, comme disait Rodolphe, il y a un vrai élan offensif qui s'est créé depuis maintenant 12 mois bientôt, où on voit vraiment un Atlético métamorphosé. Mais ça aussi, c'est en partie grâce au Cholo. Et il faut pas non plus oublier. Les joueurs, moi je pense que ce qui réussit à cette équipe, c'est aussi la stabilité. Il y a eu très peu de mouvements lors du mercato cet été. On a gardé un peu les mêmes bases que ce qu'on avait vu en deuxième partie de saison dernière, avec une équipe en confiance, une équipe qui s'entend bien sur le terrain, des joueurs qui sont concentrés, disciplinés, et on a aussi des talents, surtout offensivement, qui nous permettent aussi de marquer plus de buts. Alors on en encaisse plus que lors des années, par exemple 2016-2017, où là on était vraiment une muraille derrière, mais on marquait un peu moins. Bon, bah là maintenant c'est l'inverse, c'est un nouveau Cholismo, mais c'est pas non plus pour me déplaire. Si au final ça se termine en victoire, bah, c'est tant mieux, j'ai envie de te dire.
Ouais, et puis justement dans cette on va dire tu l'as dit dans cette stabilité, il y a quand même aussi une figure qui émerge un peu dans ce collectif. Alors il y en a plusieurs évidemment, mais peut-être une qu'on peut mettre en avant plus que les autres, c'est Antoine Griezmann qui est quand même dans une forme assez exceptionnelle, peut-être même la forme de sa vie. Est-ce que justement pour toi Timéo, pour être dans la continuité de ce que tu nous disais justement, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, à l'instant où on se parle, on peut le considérer comme le meilleur joueur du monde?
C'est compliqué comme question parce que chaque joueur, j'ai envie de dire, est différent. On ne peut pas comparer un défenseur, un gardien, un attaquant au même titre. Mais en tout cas, dans son style de jeu à lui, où il est à la fois aussi bon défensivement qu'offensivement, tout en étant un joueur offensif, tout en ayant une vista exceptionnelle, un jeu de passe incroyable, sa capacité à fluidifier le jeu, à ne jamais rechigner sur ses efforts, etc. Je pense que dans sa catégorie à lui, il n'y a pas meilleur. Après, si on parle en général sur la planète foot actuellement, je pense qu'il y a bataille avec Jude Bellingham, par exemple, ou d'autres, comme on peut penser par exemple à Harry Kane avec le Bayern. Mais sur son style de jeu à lui, il fait quelque chose en fait qu'aucun autre joueur ne fait actuellement dans le football européen. Sa manière d'être aussi bon des deux côtés du terrain, d'être partout. Tout le temps là, aussi bon défensivement, offensivement, à la passe, au tir, au dribble, etc. C'est sûr que là-dessus, je vois pas un deuxième joueur comme lui, cette saison.
Oui, tu l'as dit, il y a peut-être cette lutte, on va dire, et encore qui n'est pas tout à fait la même avec Bellingham, effectivement, dont on parle beaucoup en Liga, en Espagne, en Europe aussi de manière générale, et qui fait que voilà, c'est un peu les deux joueurs qu'on oppose, même si tu l'as dit, ils n'ont pas les mêmes profils ni les mêmes caractéristiques non plus. Rodolphe, justement, de ton côté, est-ce que tu partages un peu ce que disait Timéo? Et puis pareil, si tu veux même nous donner quelques mots de manière générale sur
Bah, oui,
ton avis sur
clairement,
Griezmann,
actuellement.
je t'en prie.
Non, pardon, actuellement, c'est clair dans la forme de sa vie ou une des formes de sa vie. Enfin voilà, parce que c'est vrai qu'il a eu d'autres saisons exceptionnelles, mais oui, il y a bataille avec Mbappé, Haaland, avec Bellingham, surtout avec Bellingham, à mon avis, avec Kane, avec Bellingham, parce qu'il est complet aussi dans un autre registre, hein, Bellingham. Bon, à mon avis, Bellingham, il va être ballon d'or dans pas très très longtemps. Mais oui, Griezmann est juste exceptionnel. C'est une des premières fois de ma vie où je me dis ça va vraiment me faire quelque chose quand il prendra sa retraite, parce qu'il va laisser un grand vide. Parce qu'un gars aussi complet que lui et aussi bon dans ce qu'il fait, même s'il est plus offensif que défensif, on est d'accord, comme disait Timéo, c'est sûr. Et oui, comme dit Henri, se bonifier avec le vin, c'est simple, mais c'est vrai, quoi. Donc voilà, ouais, tout est dit. Et il fait du bien, il fluidifie le jeu, il est là. Et puis il va battre le record d'Aragonès, quoi. Ça va être une légende de l'Atleti, donc super.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais je crois qu'il est même d'ailleurs qu'à 3 buts de ce record.
C'est
Donc
ça.
voilà, un record qui va tomber rapidement. Justement, je voulais poser aussi la question. On revient vers toi, Zinedine. Bon, on sait que Griezmann, bien sûr, est passé par le Barça, que ça s'est pas trop trop bien passé. Toi, justement, quand tu vois ce Barça actuel, quand tu vois un peu le jeu que met en place Xavi, avec pourquoi pas plusieurs milieux, un jeu qui passe aussi beaucoup par l'axe, est-ce que tu penses que ce Griezmann-là, aurait pu faire quelque chose dans ce Barça?
Non, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué sur plusieurs points parce que concrètement, la Xavi, et c'est ce qu'on lui reproche beaucoup cette saison, c'est que niveau système de jeu, on ne sait pas trop comment il joue, Xavi. On n'arrive pas à comprendre comment il joue. Ce qu'on reproche au Barça de cette année, c'est le manque justement de ce fond de jeu. Il n'y a pas de style Xavi. Je ne sais pas si François va me rejoindre sur ça, mais on n'arrive pas à comprendre le style de jeu de Xavi. Et du coup, mais après, dans le rôle qu'il occupe maintenant l'Atlético, c'est sûr que Griezmann, dans n'importe quelle équipe, il ferait beaucoup de bien. Même au Barça, maintenant, si on arrive à lui trouver une position où justement il n'a pas une position bien précise sur le terrain, c'est sûr qu'il va être, il va être efficace, il va être redoutable comme il est avec l'Atlético. Mais le problème avec ce Barça-là, c'est que j'arrive pas à voir un Griezmann ouais, dans cette équipe-là, j'arrive pas à le voir, non. Mais pareil, enfin, le problème, ça va pas être le joueur, c'est encore. Là, l'Atlético, ils ont fait en sorte de lui trouver de lui donner, pardon, une certaine liberté pour qu'il soit un peu partout en attaque et au milieu de terrain. Mais au Barça, je pense que c'est très compliqué maintenant de jouer avec un élément comme ça.
Ouais, avec un électron libre. Toi, justement, François, qu'est-ce que tu en penses? Puis après, on passera à un autre thème, un peu moins réjouissant, le thème Lewandowski. Mais qu'est-ce que tu en penses un peu de cet Antoine Griezmann-là?
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que s'il avait, comme tu disais, Zinedine, s'il avait une place à trouver dans l'équipe, je pense qu'il occuperait plus le poste à gauche, enfin de faux ailier gauche qu'occupe João Félix actuellement. Et ça aurait pu être un peu dans le même registre qu'était Gavi l'année dernière. Donc ce joueur offensif, mais qui est très combatif, capable de revenir au milieu de terrain pour gratter des ballons, mais aussi d'apporter offensivement. Donc ouais, peut-être qu'il aurait il aurait pu avoir une place dans cette équipe, mais bon, on ne sait jamais. Et pas d'amertume envers son passage au Barça. Il réussit bien à l'Atlético, et c'est quand même dommage qu'il n'ait pas réussi au Barça. Mais bon, on est quand même content de voir qu'il peut bien réussir, parce que c'est quand même un très grand joueur de foot, comme on l'a pu dire.
Ouais, pour la suite, pour enchaîner sur le thème Lewandowski, justement, Sacha en parlait juste avant. Je vais revenir avec toi simplement, Zinedine, parce que voilà, Lewandowski a quand même quelques difficultés en ce moment. C'est le pitchichi évidemment de la saison dernière en Liga. Mais on voit un joueur qui semble un peu à la peine sur cette première partie de saison. Qu'est-ce que toi tu penses justement de ces premières journées en Liga et même de ses performances aussi en Europe?
Oui, c'est sûr que c'est frustrant. Un joueur comme Lewandowski, on attend vraiment beaucoup de lui, enfin, en connaissant sa carrière et surtout toutes ses qualités. Après, c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui, mais statistiquement parlant, Il met quand même 7 buts, il a cette blessure qui le casse un petit peu, qui casse un petit peu son début de saison, qui lui fait perdre quelques matchs, mais bon, il a du mal. Il a du mal, c'est vrai qu'il a du mal, mais après, encore une fois, c'est pas évident, c'est pas évident de jouer dans ce Barça-là, parce que, encore une fois, il reçoit pas beaucoup de balles, et c'est dur pour un attaquant de devoir descendre autant pour faire du jeu. Et des fois, on le voit revenir tellement, alors que voilà, on joue avec trois, des fois quatre milieux de terrain, et que notre avant-centre, surtout Lewandowski, se retrouve à devoir revenir autant pour toucher des balles. C'est compliqué. Et voilà, après, quand tu fais autant d'efforts, forcément, quand tu reçois le ballon, le peu de fois que tu reçois le ballon dans ta surface, dans la surface adverse, pardon, tu peines à conclure à chaque fois, quoi.
Ouais, donc c'est aussi par rapport aussi à la forme de jeu, on va dire, du Barça, comme tu l'expliquais. François, justement, est-ce que tu partages un peu ce que vient de nous dire Zinedine, du fait que voilà, le joueur est peut être critiqué en tout cas sur certaines performances, mais qui est aussi la forme de jeu de ce Barça qui explique que c'est un joueur qui, voilà, de par son profil, et un rendement qui soit un peu diminué cette saison.
Oui, c'est vrai, mais après, pour dire un peu comme vous disiez Timéo et Rodolphe tout à l'heure, que l'Atletico, ils étaient très bien sortis de la pré-Coupe du Monde. Lui, Lewandowski, c'est complètement l'inverse. On a l'impression que le gars est vraiment méconnaissable depuis la Coupe du Monde. Les 6 premiers mois qu'il avait fait au Barça étaient vraiment très très bons, excellents. Et là, on a l'impression que le gars, bah, il est en dehors de ses pompes, le gars, quoi. Il est, enfin, je sais pas, son action dans la semaine contre Porto, où il reçoit le ballon dans la surface, où tu sais que si le joueur est en confiance, il fait contrôle, frappe et ça finit au fond. Mais là, non, il tergiverse, on sait pas trop ce qu'il fait. Et donc, ouais, après, comme tu disais aussi, Zinedine, ça reste le meilleur buteur du Barça cette saison. Mais j'ai l'impression quand même que s'il était au top de sa forme, il aurait mis le double de buts. Mais bon, voilà. C'est aussi un peu inquiétant de dire que c'est lui le meilleur buteur du Barça, qui n'est pas trop trop accompagné en termes, enfin, statistiquement aussi devant dans l'équipe. Voilà, le reste, l'autre meilleur buteur du Barça, c'est Ferran Torres, qui est plus souvent remplaçant que titulaire. Donc ouais, c'est assez inquiétant. Et je pense que bon, on parle un peu de Victor Roque pour l'arrivée en hiver. Moi, je pense que c'est quand même un joueur qui est assez jeune. Ça reste un prospect. Le voir tout de suite comme étant l'attaquant référence du Barça pour aller remporter les titres, je pense que c'est pas lui rendre service. Il faudrait plutôt qu'il arrive, qu'il soit un peu sur le banc, un peu dans l'ombre de Lewandowski, et qu'il puisse ensuite monter en puissance et prendre cette place de titulaire. Donc voilà, moi je pense pour avoir un bon Barça cette saison et un Barça qui lutte pour les titres, il nous faut un Lewandowski au niveau, quoi, à son très bon niveau.
Ouais, on a compris vraiment, voilà, le Lewandowski qui nous laisse un peu tous sur notre faim. C'est vrai qu'il avait commencé de fort belle manière en Liga, tu l'as très bien dit, et depuis on l'a un peu perdu. C'est vrai qu'il s'est un peu, on le trouve un peu englué dans le jeu. Maintenant là, j'ai envie de pimenter un peu les choses, tu vois. C'est une question sur João Félix, mais je vais pas directement la poser au Blaugrana. Je vais plutôt aller voir les Colchoneros et je vais aller voir Rodolphe en premier. Toi, Rodolphe, sur João Félix, voilà, qui est maintenant passé au Barça. On sait un petit peu comment ça s'est passé à la fin de son passage à l'Athletic. Il a même été copieusement insulté par les supporters au Metropolitano. Comment est-ce que tu vois ça, d'affronter à nouveau João Félix? On sait que le président de l'Atleti, Cerezo, a déclaré aujourd'hui que si jamais João venait à marquer, il espérait qu'il ne célèbre pas.
Bah, le truc, c'est que oui, il va être motivé, il va peut-être faire un gros match. En même temps, à mon avis, il va se faire peut-être même découper. En tout cas, une certaine époque du Cholismo, c'est ce qui aurait été fait, à mon avis. Là, peut-être pas. Ce serait bien d'ailleurs que ce soit pas le cas. C'est un mec pétri de talent. Le truc, c'est qu'il fait quand même beaucoup de barres, de super frappes qui ne donnent pas de but. Et au bout d'un moment, ça, voilà, le truc, c'est qu'on attend toujours qu'il émerge. Et c'est toujours pas le cas. Donc moi, je commence à douter. Et à la base, j'adorais ce gars. Et enfin, quand je vois la mine qu'il a mise sur la transversale, je crois, contre Porto... Mais le problème, c'est que voilà, il faut aussi au bout d'un moment un peu plus de stats. Alors on va voir, ça va peut-être revenir. Ça avait bien commencé au Barça, beaucoup moins dernièrement. J'ai peur qu'il passe toute sa carrière tel un joueur en devenir. Je ne le souhaite pas, hein, mais s'il ne se réveille pas, il y a un moment, s'il va passer à côté de ce qu'on lui prédisait, quoi. Mais il va être motivé, donc attention à lui quand même.
Ouais, tout à fait. Ben on comprend, c'est vrai qu'il avait ce côté voilà un peu nonchalant et c'est vrai qu'au Barça il a fait des bons matchs, mais il y a peut-être encore ce déficit de statistiques. Toi, Timéo, justement, on sait qu'avec Atleti Francia ça a été un gros sujet hein, ces derniers mois. João Félix, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation?
C'est vrai que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et écrire beaucoup de tweets. Moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui. Enfin, je suis vraiment indifférent de ça. C'est un joueur. Enfin, dans le match de dimanche, ça va être juste être un joueur comme un autre. Je ne vais pas me soucier plus de João Félix que d'un autre joueur Blaugrana. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, par rapport à sa célébration, même lors du dernier match où il embrasse l'écusson du Barça alors qu'il est en prêt sans option d'achat, rappelons-le quand même. Moi, ça me fait un petit peu rire parce que même toutes les déclarations qu'il a pu dire en disant que c'était son club de cœur, etc. Je ne sais pas si c'est de l'insouciance de la jeunesse ou de la stupidité, mais en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire quand on est encore sous contrat avec un club, annoncer ça. Alors au final, il a réalisé son rêve, comme on a pu le lire sur les réseaux du Barça. Mais c'est assez particulier parce que c'est un joueur qui voilà est prêté, qui n'a pas d'option d'achat, qui du coup le 31 juillet pourrait revenir à l'Atlético si le Barça ne met pas les 70 millions demandés par l'Atlético. Mais en dehors de tout ça, je pense que Diego Simeone résumait très bien ça. Et comme Rodolphe l'a dit, c'est un joueur qui est pétri de talent, mais qui n'a juste pas compris ce que c'était que d'être de l'Atlético de Madrid, ce que c'était la culture de l'Atlético de Madrid, le jeu de l'Atlético, les supporters, etc. C'est un joueur un peu starlet, entre guillemets, sans être péjoratif, mais c'est un joueur, voilà, fantasque, qui est toujours là dans ses gestes, ses dribbles, etc. Montrer un peu de spectacle, mais j'ai aussi cette crainte, comme disait Rodolphe, avec ce genre de joueur, c'est de rester constamment un éternel espoir, de ne jamais réussir à confirmer, d'enchaîner des prêts et de finir dans un club moyen, un peu comme Ansu Fati, on peut voir actuellement. Alors Brighton, j'ai rien contre Brighton, mais voilà. Un peu ce genre de carrière-là qui pourrait être prédestiné à malheureusement un joueur qui avait beaucoup de talent à la base. Et même si beaucoup de gens qui critiquaient le fait qu'il ait rejoint l'Atlético en disant que c'est l'Atlético qui l'avait tué et que s'il n'était pas bon avec nous, c'était de la faute de Diego Simeone, etc. On a pu voir à Chelsea que c'était pas forcément le cas. Alors là, au Barça, il fait pas non plus de mauvaises choses, mais ce n'est pas non plus ce à quoi. Enfin, ce qu'on nous vendait en tout cas, où il mettrait but sur but, passe décisive sur passe décisive, loin de là. Donc j'attends de voir, mais comme j'ai dit, dimanche, personnellement, je porterai pas plus d'attention sur lui que sur un autre.
Ouais, d'accord. Et puis bon, alors on a compris que du côté des Colchoneros, il y a de la méfiance, il y a voilà aussi des critiques un peu sur le rendement. Je reviens avec toi, Zinedine. Toi, justement, comment est-ce que tu analyses un petit peu les premiers mois de João Félix avec le Barça et qu'est-ce que ça te fait de le voir pareil raffronter le Cholo avec qui il a eu pas mal d'écueils, on va dire.
Bah, on espère vraiment. Bah, déjà, enfin, moi, personnellement, je suis assez satisfait de ce qu'il propose là depuis qu'il nous a rejoint. C'est un joueur qui apporte beaucoup de danger, qui réussit à créer des différences, qui, voilà, qui vraiment, qui pèse sur les défenses, même si, comme me disait Rodolphe, pardon, qui ne stade pas, mais sur le terrain, il fait quand même beaucoup depuis le début de cette saison. Et franchement, par rapport à l'Atlético, j'espère vraiment qu'il va utiliser ça comme une force, qui va le motiver à vraiment tout donner, à, entre guillemets, leur prouver que voilà, que c'est vraiment un élément très, très, qui pourrait être très, très important sur vraiment n'importe quel effectif, parce que de sa technique, de son intelligence de jeu. Et après, ouais, on attend de voir comment ça va évoluer dans cette saison. On espère qu'il va stater plus, qu'il va mettre plus de buts, plus de passes. Et voilà.
Ouais, d'accord. Et toi, François, justement, qu'est-ce que tu penses un peu pareil, voilà, de João Félix, ton petit avis sur la question avant de rentrer dans le match, parce que là, je sens que Ruben, il a envie de vous poser des questions spécifiques.
Bah ouais, assez d'accord avec, avec ce qui s'est dit, mais moi j'étais très surpris, très agréablement surpris de João Félix, ben, surtout ses deux premiers matchs, pourtant qui avaient été quand même souvent benchés ou souvent avec l'Atlético, voilà, comme vous disiez tout à l'heure aussi, le prêt à Chelsea pas forcément concluant. Mais là on l'a vu au Barça dès les premiers matchs, il est tout de suite dans le bain, tout de suite a bien combiné avec, avec les autres joueurs offensifs, donc c'était, je trouvais ça très intéressant de sa part. Voilà, après. Il est un petit peu quand même redescendu de ce top niveau qu'il avait eu dans ces deux matchs, mais aussi un peu à l'image de l'équipe qui tourne moins bien collectivement. Voilà, moi je pense que c'est un joueur qui a quand même besoin d'être accompagné, que ce soit par ses coéquipiers et par un collectif autour qui soit vraiment fort pour qu'il puisse, comme on disait, c'est peut-être pas l'option numéro une offensivement. Mais voilà, je pense qu'en deuxième option, un joueur qui peut créer des décalages, voilà, ramener du dynamisme dans l'attaque, ça peut être super intéressant. Et ouais, après, espérons qu'il a l'air de se plaire au Barça et les supporters en apprécient aussi. Donc on aimerait bien que ça continue ensuite, au moins pour la fin de la saison.
Ouais, et puis ben justement pour enchaîner comme le disait Sacha sur le match en lui-même et rentrer un peu dans le vif du sujet, on va rapidement parler des absents et des retours éventuellement des retours d'absence pour ce match comme on a l'habitude de le faire dans les podcasts. Concernant le Barça, je vais te poser la question à toi Zinedine. Quels sont les absents du coup éventuellement à déplorer du côté du Barça pour le match de dimanche? Et puis pareil, si jamais il y a des retours d'absence à signaler, je te laisse nous donner ça.
Bon, bah, malheureusement, en numéro un, on pensera à Gavi, qui, on va dire, portait le milieu de terrain tout seul, en l'absence de Young et de Pedri, depuis le début de saison, qui va faire beaucoup, sur son absence, ça va faire beaucoup de mal à l'équipe, et à Ter Stegen, qui est pas sûr, parce que, en tout cas, de ce que j'ai vu des dernières nouvelles, il n'est pas sûr d'être prêt pour le match. Après, si Iñaki nous fait le même match, face à Porto, ça va. mais oui, enfin, même pour les défenseurs, quand on sait qu'on a un gardien derrière comme Ter Stegen, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien. Et là, pour les retours, bah déjà, enfin, le retour de Young qui fait vraiment beaucoup de bien, de Pedri, comme je le disais tout à l'heure. Ça rattrape un petit peu la mise en forme de Gundogan qui jusqu'à présent n'a pas encore réussi à dépasser ce petit cap, on va dire, depuis qu'il est au Barça. Mais Pedri et De Jong compensent vraiment bien cette méforme. Voilà, après Rafinha aussi, on attend beaucoup de ce joueur qui est très frustrant pour nous autres supporters parce qu'il nous a quand même coûté de l'argent et jusqu'à présent malheureusement, surtout depuis le retour de sa blessure aussi, qui a vraiment du mal à vraiment stater comme pour Jean-Félix. Et du coup voilà, pour le moment, on va essayer de faire avec ce qu'on a et voilà, et en espérant que cette équipe puisse faire quelque chose.
Ouais, bah, je te laisse, si tu veux, nous donner ton avis plus en détail sur le match dans la question juste après. C'était prévu, tu as commencé un petit peu à parler là, c'est parfait, mais on va s'attarder un peu plus après. Et puis, concernant du côté de Atlético cette fois-ci, Rodolphe, je te pose la question. Pareil, les absents, si y en a, et puis même éventuellement les absents, les retours d'absence aussi à signaler côté Coach Oneros.
Le truc c'est qu'on était pour une fois depuis pas mal de temps, on était plutôt bien, parce que c'est vrai qu'à part Thomas Lemar, il n'y avait personne d'absent. On attend toujours que Reinildo joue, mais c'est compliqué parce que ça tourne sans lui, mais il est là, Depay aussi. Et puis la grosse tuile, c'est, même si c'est pas non plus un titulaire en puissance, mais quand même, Pablo Barrios qui s'est blessé sans doute jusqu'à peut-être 2-3 mois d'ici. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il est très bon. Un gros potentiel comme Riquelme. Maintenant, il y a un effectif qui est suffisamment large pour voir ça un petit peu. Et puis, en plus, ils vont du coup encore plus essayer d'avoir quelqu'un peut-être au milieu au mercato. Mais enfin voilà, et oui, il y a les joueurs qu'il faut globalement à chaque poste, malgré l'absence de Barrios. Donc ça devrait quand même le faire.
Ouais, donc un groupe globalement au complet, effectivement. Et puis, effectivement, Pablo Barrios, qui est un des joueurs qu'on avait justement mentionné dans le dernier podcast sur l'Atlético de Madrid avec Timéo, justement, pendant la trêve internationale. Et puis, bah, justement, pour parler du match directement en lui-même, je vais d'abord poser la question aux Barcelonais qui recevront, on l'a dit, en commençant bah, avec toi, François, si tu le veux bien. Justement, comment toi tu vois ce match, comment tu l'abordes? On l'a dit, il y a quand même un sacré enjeu derrière cette rencontre. Et pareil, est-ce que tu as un aspect, un facteur X à mettre en avant dans cette rencontre?
Moi, je pense que ça va être un match très chaud. Comme on s'est dit, au classement, les deux ont le même nombre de points, même si l'Atlético a un match de retard. Et donc on attend un très très gros match. Je pense aussi que voilà, sur un aspect, un facteur clé du jeu, moi je dirais surtout la première relance avec que ce soit le côté Barça, Inigo Martinez, ou côté Atlético, Hermoso. Donc moi je mettrais plus l'accent sur Hermoso pour suivre un peu de pas aussi assidûment que vous l'Atlético. Mais je trouve que Hermoso, c'est vraiment la rampe de lancement de ce type de l'Atlético. C'est toujours celui qui vient proposer au milieu de terrain, qui en partant de la défense, qui vient proposer au milieu de terrain, créer le surnombre. Et sur cette première relance, je trouve vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'actions qui partent de lui. Donc voilà, si le Barça arrive à un peu gérer ses montées, gérer son apport qu'il peut avoir dans la construction du jeu, je pense que ça peut être assez intéressant. Et voilà, je pense que le Barça aura plus le ballon, subira un peu moins dans son camp, et que l'Atlético sera moins dangereux et aura moins d'occasions.
Très bien, ouais, donc un avis assez clair pour le coup sur la façon dont tu vois cette rencontre. Zinedine, justement, est-ce que tu partages un peu la vision de François, et puis même tu as commencé à me donner quelques éléments tout à l'heure. Voilà, de manière générale, comment toi personnellement tu vois la rencontre, et puis pareil, si tu veux mettre un joueur en particulier ou même un aspect de jeu en particulier en avant, ben c'est à ton tour.
Oui, je partage complètement ce que François a dit. On connaît ce genre de match, c'est toujours des matchs très compliqués, très chauds. Et justement, moi, pour moi, l'élément, on va dire, qui pourrait être vraiment le joueur, qui pourrait être vraiment clé à ce match, c'est justement João Félix, parce que il aura, entre guillemets, quelque chose à prouver, en plus de son importance actuelle au Barça, mais également à son ancien club. Et après, en termes de jeu, oui, ça, pour le milieu de terrain, je pense qu'on va garder le même milieu de terrain avec lequel on a évolué contre Porto, parce que on retrouve enfin notre duo Pedri De Jong, et Gundogan, je vois pas d'autres joueurs à sa place, j'espère pas Romeo. J'espère que ça va rester sur Gundogan quand même si il est pas au top de sa forme en ce moment. Mais sinon, ouais, devant aussi, j'espère qu'on va juste réussir, que j'espère que ce match, comme on avait dit au tout début, que cette qualification aura vraiment l'impact positif qu'on attend, et ça sera vraiment la qualification libératrice, quoi. Ça va vraiment libérer ces joueurs et de tout complexe, et qu'ils puissent jouer vraiment leur football. C'est individuellement, cette année on a vraiment un effectif très 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 complet, on a des joueurs vraiment exceptionnels, donc on attend de voir une très grosse équipe aussi collectivement ce dimanche.
Ouais, donc profiter de la qualification en Ligue 1, profiter de la dynamique de la qualification pour voilà un peu repartir de l'avant en championnat, parce qu'effectivement oui, dans le haut de tableau, et le rythme est assez assez intense quand même. Et puis bah on va aussi poser la question au coach général de comment il voit ce déplacement du côté de Barcelone. Je te pose d'abord la question à toi Timéo, pareil, même chose, ton avis un peu sur la rencontre, et puis pareil, si il y a un élément, un joueur que tu veux mettre en avant, que tu veux dont tu veux parler, bah, je te laisse me donner ça.
Ben moi, en tout cas, ce que j'attends du côté de l'Atlético, c'est de jouer sans complexe, de ne pas retomber dans les travers qu'on a pu voir, alors ces derniers temps ce n'est plus le cas et je vais l'évoquer, mais les travers qu'on a pu voir ces dernières années lorsqu'on affronte des grosses équipes, que ce soit en championnat ou en Europe, à se replier un petit peu. Moi j'attends un Atlético comme ce fut le cas contre le Real, qui joue avec ses armes, qui n'a pas peur de l'adversaire, qui n'a pas de complexe d'infériorité comme je disais, qui sait qu'il a les capacités de pouvoir faire un gros coup, même si c'est à l'extérieur, et qui va du coup continuer de jouer comme il le fait depuis le début de la saison, sans penser à l'adversaire en face, sans forcément remettre en cause toutes les belles choses qui ont été faites la saison. Pour moi, ce match, il va vraiment se jouer au milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain. On sait que l'Atlético est très bon dans l'axe. Alors certes, on a de très bons pistons en la personne de Molina et Lino, voire Riquelme. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans ce jeu de l'Atlético, c'est cette capacité à contrôler le milieu de terrain et du coup pouvoir ensuite se projeter sur les ailes. Et là-dessus, je pense que la bataille entre d'un côté Koke, De Paul et Llorente face à De Jong, Gundogan et Pedri, ça va être très intéressant. Avec aussi du côté de l'Atlético, un Griezmann qui n'hésite pas à redescendre aussi pour épauler le milieu de terrain et faire cette transition entre le milieu et l'attaque. Donc pour moi, ça va vraiment être le facteur clé. Ça va être cette bataille au milieu de terrain et l'équipe qui arrivera à être le plus investie et avoir le plus le ballon dans ces zones-là, à récupérer le plus rapidement le ballon dans ces zones-là et à contrôler la possession au milieu de terrain, aura de grandes chances de l'emporter, je pense.
Ouais, donc un match qui va voilà, beaucoup jouer au milieu de terrain, du coup, si on s'en suit un peu ce que tu peux nous dire. Et puis, bon, on termine avec toi, Rodolphe, pareil, la même question. Ton avis sur le match et puis un facteur X.
Bah, mon avis sur le match, ça va être compliqué. C'est difficile de sortir un pronostic. Après, si l'Atlético joue comme ils arrivent à jouer en général actuellement, a priori, je pense même qu'ils sont plus forts. Voilà, je le dis honnêtement. Après, on verra. Hein. Ça peut être un nul, une défaite. Tant pis. Mais c'est vrai que ils ont faim, peut-être même plus que le Barça. Je les trouve vraiment forts au niveau intensité physique. Voilà, donc ils vont tout faire pour gagner. Et en plus, le Cholo n'a jamais gagné à l'extérieur contre le Barça. Alors, ça tombe bien, là, c'est à Montjuïc. Donc, c'est peut-être le début d'eux. Donc, on verra. À suivre. Mais c'est difficile de sortir un vrai pronostic pour ce match, en tout cas.
Ouais, tout à fait. Bah, tu nous parlais de pronostics, on va y venir juste après. Mais Ruben, toi, en tant que 100% neutre pour cette rencontre, comment est-ce que tu la vois?
Ben c'est compliqué parce que tout le monde l'a bien résumé, mais il y a quand même deux équipes qui arrivent dans une forme, alors qui n'est pas totalement la même en Liga, mais qui voilà, sont quand même des équipes qui sont assez solides. Moi, c'est vrai que l'Atlético de Madrid, dont j'en avais déjà un peu parlé dans les autres podcasts, m'impressionne quand même beaucoup sur ce début de saison entre guillemets, parce qu'on est quand même à la fin novembre maintenant, début décembre même, ce qui est quand même relativement impressionnant, la façon dont ils ont réussi à négocier quasiment cette première partie de saison. Et puis dernièrement, hormis la mauvaise surprise, on va dire, du côté de Las Palmas, sinon c'est quand même une équipe qui enchaîne pas mal et qui, voilà, on parlait de Griezmann tout à l'heure, qui effectivement aussi est bien épaulé par Morata, qui les deux forment un duo, tu vois, qui est assez impressionnant. Et moi, qui me font penser que l'Atlético a son coup à faire à Barcelone. Après, on va venir au pronostic, mais c'est vrai que ouais, je rejoins Rodolphe sur le fait qu'il y a quand même une équipe de l'Atlético qui arrive vraiment dans une excellente dynamique, qui en plus, voilà, on le sent au-delà des résultats, quand même soudé. On voit que le Cholo, voilà, ça fait enfin, on en parle beaucoup du Cholo, mais effectivement ça fait longtemps qu'il est là, et pourtant on voit bien que l'envie ne se perd pas, et c'est ça qui est assez impressionnant, et moi qui fait penser qu'ils arrivent en tout cas dans une très bonne dynamique pour ce match. Et puis voilà, enfin, c'est quand même un Barça qui on l'a dit, s'est qualifié mine de rien en 8e de Ligue des Champions, ce qui n'était pas arrivé depuis voilà maintenant plus de deux saisons, enfin ça avait été un échec sur les deux dernières saisons, et ce qui mine de rien n'est quand même pas à négliger, je pense, moralement et psychologiquement, parce que l'équipe en avait besoin aussi. Je vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais voilà, Xavi était quand même pas mal critiqué. On voyait qu'il y avait un contexte médiatique très compliqué. Et donc, qui arrive moralement, je pense, dans une forme aussi plus convaincante, en tout cas, qui aura à cœur, je pense, de profiter un peu de l'élan de la victoire contre Porto pour confirmer tout ça. Donc voilà, moi, j'ai peut-être je donnerai peut-être un léger avantage à l'Atlético, mais c'est difficile en soi. Le Barça à domicile aussi est une équipe quand même très solide, on l'a vu dans beaucoup de matchs de saison. C'est pas une équipe qui perd beaucoup de points à domicile, même tout simplement. Et voilà, il y a quand même aussi un milieu de terrain, Timo en parlait, qui est solide des deux côtés. Mais c'est vrai que du côté du Barça, notamment avec De Jong, qui est quand même un sacré joueur, qui fait que voilà, c'est aussi une équipe qui a une force dans ce domaine-là. Donc, ouais, moi je vois un match assez équilibré, en tout cas, mais un match avec des buts et puis avec deux équipes qui proposent du jeu. Et je pense que. Voilà, l'impact moral, en tout cas, des deux équipes, aussi bien pour le Barça avec la victoire contre Porto et puis la nécessité de se relancer après le faux pas à Vallecas, et pour Atlético, du coup, qui est quand même sur une dynamique qui a aussi validé sa qualification en huitième de LDC. Je pense, voilà, que l'aspect psychologique moral va être un peu peut-être pourquoi pas le facteur X soit de cette rencontre aussi, en plus de la gestion du match par les deux entraîneurs.
Ben voilà, écoute, c'est parfait. Tu annonces des buts, alors ce serait pas pour me déplaire parce que ben, je ne serais pas au bar avec les autres amis, mais j'aurais la chance d'être au stade. Donc voilà, si ça pouvait se réaliser, Ruben, qu'on voit vraiment un gros match de Liga, ce serait parfait. Je vais commencer avec toi, Zinedine, honneur un peu aux locaux pour le dernier point du podcast. Si tu pouvais nous donner un score, un pronostic.
Moi, je dirais 2-1 pour le Barça.
Ok,
Notre point
d'accord.
fort là, c'est le dernier quart d'heure, donc on va dire que match un peu serré et au dernier quart d'heure, Lewandowski va débloquer la situation et nous donner la victoire.
Ok, donc un Lewandowski buteur pour un 2-1 en fin de match. François, est-ce que tu suis un petit peu ce pronostic?
Bah ouais, j'avais exactement le même pronostic 2-1 Barça, même si c'est vraiment le pronostic du cœur en tant que supporter qui parle. Mais ouais, c'est vrai que l'Atlético arrive quand même dans une meilleure forme et collectivement dégage une plus grosse force que ce que peut faire le Barça. Mais bon, voilà, l'aspect à domicile, l'aspect victoire contre Porto et peut-être comme on a dit, enchaîner une bonne dynamique. Et puis voilà, on a aussi des super joueurs individuellement en parlant. Et donc je me dis, on peut vraiment faire la différence à tout moment sur le match. Donc pour ça que je dirais 2-1 pour le Barça.
Ok, d'accord. Donc pareil, 2-1 pour le Barça, on sent que la Peña est bien coordonnée. Alors ça tombe bien, Timéo et Rodolphe, à moins que Timéo tu sois dans la Peña, ça devrait nous donner des pronostics différents si on suit cette règle. Timéo, justement, si tu pouvais nous en donner un.
Alors moi j'ai le pronostic. Enfin, déjà j'ai envie de dire une chose, c'est que l'Atlético, je crois, n'a plus gagné à l'extérieur contre le Barça depuis les années Forlan et Agüero. Donc ça
Il me
commence
semble que
à
la dernière
remonter
fois,
un
c'est le
petit
doublé
peu.
de Torres, non?
Comment?
Il me semble que la dernière fois, c'est le doublé de Torres au Camp Nou, non? Ça
Ah
doit être en
oui, mais moi je
2006.
parlais en Liga.
Ah oui.
Ou alors je suis complètement en train de dire des bêtises, mais peut-être que Rodolphe a la stat. Mais dans mes souvenirs, ça fait au moins 10 ans que l'Atlético n'a pas gagné à l'extérieur contre le Barça, 10 ans minimum. Mais c'était au Camp Nou. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment au Camp Nou, donc peut-être que cette fois-ci, la statistique ne se révélera pas vraie et va enfin s'arrêter. Et du coup, pour en revenir aux statistiques, il y a le choix du cœur complètement fantasque. Ce serait un 3-0 de Griezmann, enfin un 3-0 de l'Atlético, triplé de Griezmann, qui ferait en sorte qu'il devienne le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético à égalité avec Luis Aragonés. Pour le record, contre son ancien club pour lequel il nous a entre guillemets trahi, même si aujourd'hui c'est devenu un grand mot, tant Griezmann, enfin, il y a eu une grosse rédemption de sa part, mais alors là, la rédemption serait totale s'il arrive à égaler le record d'Aragonès face à son ancien club. Mais bon, ça, comme j'ai dit, c'est le pronostic un peu fantasque, mais en étant un peu plus objectif, je vois un match serré, quand même une victoire de l'Atlético au vu de la forme d'Errori Blancos, donc je vois soit 2-1. Soit 1-0, mais joint un but de Griezmann, quoi qu'il arrive.
Ok, donc Griezmann buteur, et puis Rodolphe, toi, pour finir un petit peu avant de passer la parole à Ruben.
Pronostic pour le match?
Exactement.
Bon, allez, 2-1 pour l'Atleti.
Allez, petite victoire de 1 pour l'Atleti. Est-ce que Griezmann buteur dans tes visions?
Ouais, allez, ce serait une belle histoire comme ça.
Ouais, ou peut-être même Morata, on sait aussi qu'il est... bon, ces deux derniers matchs sont un peu moins bien déroulés pour lui, mais enfin, il était voulu par Xavi, ce serait peut-être aussi un petit signe. Toi, Ruben, justement, je te laisserai le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous donner un pronostic? Tu nous as parlé de but, alors j'espère que tu vas pas nous lâcher un petit 2. Hein. Là, on veut des émotions en perspective.
Non, bah écoute, moi je suis un peu entre tout le monde et pour le coup c'est au-delà de vouloir faire l'arbitre et de d'équilibrer un peu les comptes. Non, c'est vraiment mon pronostic que je vois pour le match. Moi j'aurais dit 2-2 parce que voilà, c'est deux équipes quand même qui, on l'a dit, vont avoir à cœur de jouer, qui sont voilà des équipes qui sont aussi beaucoup portées vers l'avant. Mais voilà, il y a des statistiques, il y a des dynamiques d'un côté et de l'autre, donc voilà, moi j'ai du mal à dégager un vainqueur, même si voilà, du coup, je arrive dans une forme légèrement plus impressionnante, mais voilà, match nul 2-2. Et puis avant qu'on conclue, Sacha, si tu nous donnais le tien également, comme tu seras au stade, tu l'as dit, bah, je t'en prie en tout cas.
Voilà, c'est la petite mise en difficulté du chat noir de d'habitude. Non, mais écoute, ouais, moi je pense que ce sera un match assez intéressant pour revenir sur ce qui a été dit. Du côté de l'Atlético, je pense que la grande force des hommes de Simeone, ça peut être un peu cette intensité tout terrain. On sait que voilà, l'équipe de Xavi, elle a beaucoup de mal à essuyer des vagues. Quand elle est un peu acculée, on sent que la défense centrale est pas non plus tout terrain, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une concentration de tous les instants, notamment en ce moment chez Jules Koundé, qui était très bon en début de saison, mais qui a un peu de mal depuis le retour de blessure. Et je pense que ces joueurs un peu de l'Atlético qui savent jouer un peu entre les lignes peuvent faire mal. Je pense que les Pistons aussi, Lino Molina, voilà, ça peut faire des dégâts. Et puis côté du Barça, ben forcément, hein, cette alliance un peu De Jong, Pedri et Gundogan, on sait que c'est, il y a une grosse qualité de sortie de balle. Il y a aussi pas mal de présence à la récupération. On sait que Frenkie De Jong, il change profondément cette équipe. C'est sûr que Gavi va manquer, mais enfin lui, il peut à lui tout seul donner beaucoup de travail au milieu adverse et créer du surnombre de par ses appels, de par cette fonction à être toujours un petit peu le meilleur rouage à côté de son coéquipier. Et puis bon, pourquoi pas aussi voir le facteur Joao Félix, voilà, qui pourrait, face à ses anciens coéquipiers, aussi être l'homme décisif. En tout cas, je pense que sa célébration en embrassant l'écusson du Barça face à Porto, elle avait un double message et voilà. Mais sinon, je verrais bien une victoire du Barça. Alors vous allez dire que c'est un peu biaisé, forcément. Surtout toi, Timéo, on en a fait en plus des prévias de Barça-Atlético. Mais pourquoi pas une victoire du Barça, 3-1, avec un Atlético vraiment très intéressant en première période, mais un Barça qui, comme à son habitude et comme l'a très bien dit Zinedine, en fin de match, arrive à trouver un petit peu les solutions et un Lewandowski qui se rappelle à ses meilleures heures sous le maillot Blaugrana.
Et bah c'est nos deux en tout cas pour le pronostic qui va nous amener du coup à conclure ce gros numéro qu'on a pu faire sur ce match du dimanche soir, on le rappelle, donc contre le Barça et puis Atlético de Madrid à 21h. Merci en tout cas à tous d'être venus, Zinedine pour ta première, Timéo aussi comme toujours très fidèle dans les podcasts pour nous parler de Atlético de Madrid, et puis Rodolphe et François également qui nous ont accompagnés à chacun avec leur peña respective. On rappelle donc évidemment l'événement dimanche soir aussi à Paris, organisé par Atleti Francia, par les différentes peñas, par la Liga, et puis par Sorare également si j'oublie personne. On en reparlera, en tout cas on mettra le tweet que Atleti Francia a fait sous ce podcast. Et puis bah voilà, merci aussi à tous les chats de m'avoir accompagné pour co-animer ce numéro. Et d'ici là, on vous souhaite en tout cas une très belle journée de Liga, un très beau match. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux numéros.